Radio Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de journal au micro Lievin Bouinga. D'abord les titres. Manifestation ce mercredi matin à Nirangongo, route barricadée, activités socio-économiques paralysées sur plusieurs axes. C'est le tableau sombre que présente ce territoire du Nord Kivu. Ce matin, la population crie aux multiples cas de meurtres et autres cambriolages. L'Observatoire de la dépense publique ODEP et la Ligue congolaise de lutte contre la corruption s'en vont en guerre contre la corruption et l'impunité en RDC. Ces deux structures projettent une campagne de lutte contre ces fléaux. Détail dans un instant. Le combat Mohamed Ali Georges Foreman a 50 ans aujourd'hui, 30 octobre. Les Congolais, pourquoi pas le monde, se souviennent de cette inoubliable journée. Pour en parler, Radio Kapi vous propose un grand dans le monde du sport, Célestin Kabalamonambouyi, il est notre invité. Encore une fois, bonjour. Notez d'abord cette nouvelle de dernière minute. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mercredi à Entebbe, en Ouganda, pour une visite de travail de quelques heures au cours de laquelle il va rencontrer son homologue Yoweri Museveni. D'après un message sur X de la présidence, les deux chefs d'État auront un entretien en tête-à-tête au Stade House sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Ils aborderont notamment l'évolution des opérations conjointes menées par les FRDC et l'UPDF contre les terroristes ADF au Nord Kivu et en Ituri. Routes barricadées, activités socio-économiques paralysées sur plusieurs axes ce mercredi dans le groupement Mouja. C'est ce tableau sombre que présente cette contrée du territoire de Nirangongo. La population de cette zone s'insurge contre les multiples cas de meurtres et cambriolages par des bandits armés. Ces manifestants exigent la restauration de la sécurité. Le point avec Bernardin Nyangi.
La nuit de mardi à ce mercredi, une femme a été blessée par balle au ventre lors d'un cambriolage des bandits armés. C'était autour de 0h30 dans le village de Kiziba 1, en territoire de Nirangongo. Ce village est périphérique au quartier Ndosho de la ville de Goma. Avant cet incident, ce sont au moins 10 maisons d'habitation qui ont été cambriolées et un cadre de la société civile de Nirangongo blessé grièvement par des bandits armés la nuit de lundi à hier mardi. Là, c'est dans le village Bougambadé, toujours près de Ndosho, au sud du groupement Mouja. Ce qui porte, selon la société civile locale, à un bilan de 18 cas de meurtre, une dizaine de blessés et 33 cambriolages enregistrés au courant de ce seul mois d'octobre dans le territoire de Nirangongo. Fâchée par ces incidents, la population locale a barricadé plusieurs routes principales et de dessertes agricoles moyennant des pierres et troncs d'arbres toute la matinée. Ce mercredi, depuis Bougamba Kiziba jusqu'à Turunga, elle veut entre autres qu'une solution urgente soit trouvée contre la circulation d'hommes armés, dont des militaires incontrôlés, dans la zone. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Kapi.
C'est presque la même démarche du côté de la province de la Tshopo. La société civile Force Vive dénonce l'insécurité criante aussi bien dans la ville de Kisangani qu'à l'intérieur de cette juridiction. Dans un point de presse animé hier par Elias Alima, le président de cette structure citoyenne regrette que le mémo préparé à cet effet pour soumettre au chef de l'État ne lui a pas été remis en raison d'un blocage. Il espère que le gouverneur de province va prendre en charge cette question en vue d'y trouver des solutions idéales. Dans l'urgence. Les propos du président provincial de la SOCIPO sont relayés ici par son secrétaire rapporteur Vincent Matumba est au micro de Jacques Moukonkolé.
La population de la ville de Kisangani, en particulier celle de la province de Sendigne, l'insécurité est grande. Illustrons seulement l'exemple de la ville de Kisangani. Avec les déplacés de Lubunga qui ont envahi toute la zone de santé de Makiso, la partie est ici. Les enfants défilent, ils quémandent. C'est une bombe à retardement pour la République. Plus tard, nous espérons que nous allons encore plus décrier qu'il y a la délinquance juvénile parce qu'on ne sait pas encadrer ces enfants. Et les enfants et les mamans, ils sont déplacés de leur milieu naturel et ça devient un grand problème. Prenons l'exemple qui se vit au campus aujourd'hui. Vous voyez, les étudiants manifestent leur mécontentement en affront avec les motards. C'est toujours l'insécurité. Nous allons à Opiengue. On ne sait pas trouver de solution à leurs problèmes. Donc le problème de l'insécurité est majeur et notre cahier des charges que nous avons préparé pour remettre au chef de l'État est plus détaillant et plus détaillant. Et c'est comme ça qu'on doit devoir s'indigner pour n'avoir pas été reçu. Et franchement, ce n'est à culpa. J'espère que le gouvernement provincial pourrait s'y mettre et chercher à incarner la volonté du chef de l'État et trouver solution à tous ces dérapages, hein, tant au centre-ville qu'au niveau de l'intérieur de la ville.
Et puis, la situation de plusieurs Congolais refoulés de l'Angola ne fait que se dégrader à chaque fois dans la province du Kwango. L'association Action Plus, une structure de la société civile qui le dit, indique que ces refoulés sont dépourvus de tout et passent nuit dans des conditions inhumaines. Son coordonnateur, Jude Changata, fait savoir aussi que le gouvernement provincial du Kwango avait volé au secours de ces personnes il y a quelques jours, mais il pense que cela est insuffisant. Il plaide auprès du gouvernement congolais et des organisations humanitaires pour une assistance en faveur de ces refoulés. Irène Mboma Luzolo nous fait le point.
Parmi ces refoulés de l'Angola qui se trouvent actuellement dans la province du Kwango, précisément dans la localité de Chakufwa, au territoire de Kayemba, frontière congolaise avec l'Angola, figurent les femmes et les enfants. Ici, ces Congolais vivent dans des conditions déplorables, comme le témoignent les coordonnateurs de l'association Action Plus, une structure de la société civile de Kayemba, Jude Changata.
Les enfants et les femmes sont les premiers vulnérables. Les manger pose problème et aussi problème de logement. Ils sont reçus dans des écoles et aussi églises. Comprenez avec cette période pluvieuse ce que ça peut causer comme problème.
Jude Changata appelle à une intervention urgente en faveur de ces personnes en détresse.
Nous disons d'abord merci au gouvernement provincial qui a apporté une assistance financière, bien que non consistante, mais le gouvernement central et les organisations gouvernementales nationales peuvent apporter leur soutien aux Congolais qui sont en train de souffrir jusque-là à Chakufwa. Surtout le manger, le logement et les déplacements.
Les responsables des Action Plus dénoncent les mauvais traitements infligés aux Congolais par l'Angola qui, selon lui, est un pays ami de la RDC. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Et nous venons de l'apprendre, un hélicoptère a connu un crash cet avant-midi à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa, du côté réservé aux militaires. D'après des témoignages, l'accident serait survenu au cours des manœuvres dans l'enceinte de cet aéroport. Nous y reviendrons avec des détails dans nos prochaines éditions. L'Observatoire de la dépense publique ODEP et la Ligue congolaise de lutte contre la corruption LICOCO annoncent une campagne de lutte contre la corruption et l'impunité en RDC. Ces deux structures publient ainsi un certain nombre de projets qui avaient été financés par les fonds publics en RDC, mais ayant été entachés par des pratiques de corruption dont les auteurs sont restés impunis. Qu'est-ce qui justifie une telle campagne en ce moment? Quelle est la finalité de cette démarche de l'ODEP et de la LICOCO? Élément de réponse avec le coordonnateur de la Ligue congolaise contre la corruption, Ernest Mpararo, répond au micro de Emmanuel Elamej Wakabedi.
Nous estimons que pendant la réunion des États généraux de la justice où il y aura toutes les autorités judiciaires, toutes les autorités politiques administratives ici à Kinshasa, nous devons montrer à toutes ces autorités l'effet des corruptions d'une façon concrète par des projets qui ont été financés par les gouvernements et dont certains n'ont pas abouti et d'autres ont été entachés par des pratiques de corruption. Nous n'accusons pas, nous disons seulement que pendant ces projets, c'est X personnes qui a été responsable, qui peut être responsable sans toutefois être l'auteur des actes de corruption. Donc nous n'accusons personne, mais nous disons seulement que c'est sous le mandat de telle personne que le projet a été monté. Point barre. Notre finalité, c'est de sensibiliser les citoyens, d'alerter les citoyens, de faire pression à toutes ces autorités, aux autorités judiciaires, aux autorités administratives et aux autorités politiques, pour que les problèmes de la corruption soient pris en urgence et en priorité dans toutes leurs politiques sectorielles.
Le rapport de la commission ECOFIN sur le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023 et le collectif budgétaire 2024 vient de passer. Il a été adopté hier mardi à l'Assemblée nationale, ici à Kinshasa. Face aux différents détournements des deniers publics et des dépassements budgétaires constatés, la commission a proposé la mise en place d'une commission d'enquête sur l'utilisation des fonds alloués au programme des 145 territoires. Dans sa présentation de l'économie du rapport général des travaux, le président de l'ECOFIN a précisé que sa commission a attiré son attention particulière sur les secteurs vitaux, notamment la santé et l'éducation. Reportage Michel Kifindangoy.
S'appuyant sur les rapports de la Cour des comptes, la commission ECOFIN déplore d'énormes dépassements des crédits et d'importantes disparités dans leur consommation, mais également l'absence de précisions sur la localisation exacte de la nature des projets financés par ces dépenses. Ida Kitoa, rapporteur de l'ECOFIN.
Le PDL 145 territoires n'a connu qu'un taux d'exécution de 6,96% sur un total de dépenses de 22 786 milliards. Seuls environ 49% ont été exécutés conformément à la loi.
Dénonçant les dépenses de près de 8 milliards de dollars en mode d'urgence, l'ECOFIN condamne la mauvaise gouvernance, le manque d'orthodoxie financière et l'indiscipline budgétaire, ajoute Ida Kitoa.
Cette procédure sert à faciliter le détournement massif de fonds publics, empêchant ainsi l'État une bonne prise en charge de ses citoyens, tout en retardant son développement.
Pour faire face à ces détournements massifs des finances publiques, les députés décident de diligenter une enquête afin de démasquer tous les détourneurs et récupérer les fonds en procédant à la confiscation et à la vente des biens des coupables.
Chapitre économie toujours, il y a eu ouverture lundi à Bujumbura au Burundi du 17e forum d'affaires du marché commun pour l'Afrique orientale et australe COMESA. Le ministre congolais du commerce extérieur qui prend part à ces assises propose aux pays membres de cette organisation africaine de passer désormais à l'étape de mobilisation des financements avec la création des banques d'investissement. Cela en vue de développer les secteurs des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture, tout en levant également les financements sur le crédit carbone. Pour Julien Paluku Kaongia, les bassins de production doivent être bien identifiés par les pays du COMESA. On l'écoute.
Je suis heureux donc d'avoir été envoyé par le président de la République qui lui-même va participer au sommet des chefs d'État pour ce business forum que les 21 pays faisant partie du COMESA ont organisé pour examiner des thématiques importantes sur l'avenir de l'Afrique. La première thématique, c'est comment nous devons rendre notre agriculture résiliente face au réchauffement climatique. Parce que la désertification est en train de prendre de l'ampleur et si on ne prend pas des mesures, évidemment, nous allons avoir des difficultés de nourrir les populations africaines. Et donc, on est en train de réfléchir de comment nous devons améliorer notre agriculture par de nouvelles méthodes. Nous avons proposé, par exemple, qu'il y ait des programmes communs au niveau de la zone COMESA pour que les programmes de développement ou de transformation agricole soient partagés entre les 21 pays pour que nous puissions nous rassurer que tous nous sommes sur la même voie. Le deuxième pilier important que nous avons abordé, c'était de voir comment le secteur minier peut être le pilier de la relance économique de l'Afrique. Et là, comme tout le monde le sait, le président de la République, Félix Tshisekedi, est le champion de la création de la chaîne de valeur des batteries électriques avec son homologue zambien.
Je vous signale que le thème principal de ces assises porte sur l'accélération de l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur dans les domaines de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme. Éducation, la synergie des enseignants du Sud Kivu n'est plus en odeur de sainteté envers sa base respective qu'il accuse de corrompu. Le vase a débordé lorsque la synergie a lancé dernièrement un appel aux enseignants de suspendre la grève et reprendre le chemin de l'école. Les enseignants des écoles primaires concernées par la grève ont commenté ce message de diverses manières. Pour les uns, les délégués syndicaux auraient touché un pot de vin, mais pour les autres, c'est un appel normal lancé par Humanisme. Jean Kassami nous brosse cette situation.
Ces climats de méfiance entre les enseignants vis-à-vis de leurs délégués syndicaux n'arrêtent pas la dynamique de mettre fin au mouvement de grève des enseignants dans des écoles. Des réunions interindividuelles se tiennent par petits groupes loin des yeux et des oreilles des syndicats. La majorité chemine vers une éventuelle reprise massive des cours. Les parents du lycée Wima, par exemple, l'une des grandes écoles conventionnées catholiques de Bukavu, auraient convenu de suppléer les salaires des enseignants, moyennant 20 dollars par trimestre et par élève. Ce qui pousse certains observateurs à dire que la prime payée par les parents est en train de se réinstaller doucement mais sûrement. Les enseignants des écoles urbaines dont les parents sont incapables de suppléer les salaires des enseignants à travers une motivation financière optent carrément pour le durcissement de la grève. Pendant ce temps, la reprise des cours est effective dans quelques écoles rurales. Et à l'issue de l'Assemblée générale tenue hier, les délégués des enseignants des écoles conventionnées catholiques ont convenu de reprendre les cours lundi, mais sous quelques préalables. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Situation déplorable pour plus de 11 700 déplacés à Bounia. Ils vivent sans assistance depuis près de 3 ans dans le site de l'ISP, dans cette ville de l'Ituri. D'après plusieurs témoignages recueillis sur place, ces personnes qui ont fui les exactions des miliciens depuis au moins 6 ans dans le territoire de Djougou vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Ces déplacés qui attendent désespérément le rétablissement de la paix dans leur village d'origine disent être carrément abandonné par le gouvernement. C'est un reportage de Sadiki Aboubakar.
Quand on entre dans le site des déplacés de l'ISP Bounia, ça sent la misère. Cette phrase est connue de tous ici. Des abris en lambeaux, dont certains faits avec des bâches datant de 2019. Pas de nourriture, ni de vêtements. La dernière assistance humanitaire est intervenue dans ce site il y a environ 3 ans. Samuel Ngouna, un enseignant, vient de passer une année et demie dans ce site.
Je n'ai jamais vu l'assistance depuis que je suis là. Dans une ville où nous n'avons jamais été, ça nous crée des problèmes. Le fait d'aller chercher et revenir, mais au village, à part l'enseignement, on vivait très bien.
Imane Issifa Georgine, une autre déplacée, déplore que les déplacés d'autres sites reçoivent régulièrement une assistance en vivres, mais pas eux.
Pourquoi les déplacés de Telega et Katoto sont souvent assistés et nous du site de l'ISP et Kigonze, on ne nous assiste plus? Et ce sont seulement les déplacés de Telega, Mbala, Katoto et Katirogo qui méritent de l'assistance? Que les autorités nous le disent. Et si c'est le cas, qu'ils nous garantissent la paix dans nos villages et organisent notre retour.
Tous nos efforts pour avoir la réaction de la CNR, Commission nationale pour les réfugiés, n'ont pas abouti. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Rien ne va plus non plus au centre de santé de Samboko, dans le territoire de Beni, au nord Kivu. Il éprouve des difficultés de fonctionnement depuis qu'il y a eu un incendie causé par les rebelles des ADF en 2018. Actuellement, cette structure sanitaire utilise un bâtiment où se déroulent toutes les activités nécessaires pour un village d'environ 25 000 habitants, ce qui ne leur permet pas de respecter les normes sanitaires. Salomon Maté Mupanda, l'infirmier titulaire de cette structure sanitaire, plaide pour une aide à la construction d'un nouveau bâtiment afin d'assurer une bonne prise en charge des malades. Il le dit au micro de Guylaine Kassassia.
On travaille dans le même bâtiment. Il y avait 12 pièces, c'était bâtiment polyclinique. Pour le moment, on mélange les accouchés avec les malades. Dans un bâtiment de 8 pièces, c'est là que fonctionne tout pour le moment. Les normes ne sont pas là parce qu'il y a risque même de contamination. Si toucher les bébés, les femmes enceintes, les femmes qui ont accouché. C'est pourquoi il y a beaucoup d'infections chez les mamans ces derniers temps. Pour nous, il faut que nous trouvons un partenaire qui va nous construire des bâtiments à polyclinique. Pour le moment, le fonctionnement est difficile parce que la population est très pauvre. La plupart de la population sont des populations retournées, estimées à 24 800, mais qui payent difficilement les produits à cause de la sécurité. Et pour le moment, on achète peu de produits et il y a beaucoup de dettes chez la population. Les personnels soignants travaillent comme bénévoles actuellement.
Actualité internationale. La scène politique se réduit de moitié en Guinée-Conakry après une campagne de recensement et d'évaluation des partis politiques du pays. Le gouvernement a annoncé mardi 29 octobre la dissolution ou la suspension de 50% d'entre eux. C'est dans un long rapport de 180 pages que le ministère de l'administration du territoire de Guinée a présenté le bilan de la campagne d'évaluation des partis lancée en juin dernier.
L'invité.
Les Congolais, pourquoi pas le monde célèbre ce mercredi 30 octobre 2024 le 50e anniversaire du combat entre Mohamed Ali et Georges Foreman. Notre invité de ce jour, c'est le grand journaliste Pierre-Célestin Kabala-Mwanambu qui revient sur les moments forts de l'organisation de ce combat du siècle des poids lourds qui avait eu lieu le 30 octobre 1974 à Kinshasa, au Zaïre, actuellement République démocratique du Congo. Il s'entretient ici avec Kanish Mukongo.
Pierre-Célestin Kabala-Mwanambuyi, bonjour.
Bonjour Kanish Mukongo Shambuyi.
Vous êtes journaliste et vous étiez dans les comités mis en place pour les préparatifs de ce combat entre Mohamed Ali et Georges Foreman. Que retenir de l'organisation et du spectacle?
De l'organisation, c'était inimaginable. D'abord, c'était uniquement les enfants du pays, ce qui avait fait la fierté non seulement du président Mobutu, mais aussi du président américain, je crois que c'était Edgar Faure, qui avait adressé un message pathétique au président Mobutu pour lui dire qu'il était surpris agréablement par la qualité de l'organisation, la qualité des images qu'il avait reçues en direct aux États-Unis et la qualité du combat. Du combat lui-même, ce que nous pouvons retenir, c'est que c'était unique en son genre. C'est la première fois qu'un pays africain, avant l'Europe, avait organisé un événement de cette envergure.
Pierre Célestin, dites-nous pourquoi le président Mobutu avait accepté l'organisation de ces combats.
Le président Mobutu n'avait pas accepté parce que personne ne lui avait imposé, c'est lui-même. Nous étions au Caire, en Égypte, à la Coupe d'Afrique des Nations de football que les Léopards avaient remportée. Et le président Mobutu, après son discours aux Nations Unies, décembre 73, s'était attiré le courroux du monde occidental. Et c'est nous, les journalistes, qui avions découvert qu'Ali était au Caire. Nous étions Lucien Chimpumpo, Sasakasa Ikibuba et votre serviteur. Et nous l'avions porté à la connaissance de notre chancellerie au Caire. Que sur un coup de tête, il avait décidé, ah, ça c'est quelque chose de bien pour moi. Il est allé à la rencontre de Mohamed Ali. Le président Mobutu l'en a dissuadé. Il a dit qu'il était, lui, le combattant de la dignité de l'homme noir et que le président Mobutu était pour le recours à l'authenticité. Donc c'était deux destins qui se croisaient. En 7 mois, nous devions réaliser tout ce que le monde a vécu. Nous avions constitué des commissions sous la présidence du cabinet du président de la République avec la réfection du stade. On a commandé des rings de boxe, des rings d'entraînement. Et le pays avait dû porter sa capacité de communication de 4 à 6 lignes. Et en plus, nous avions renforcé la capacité de l'industrie hôtelière de 1 000 à 10 000 lits. Il y a eu 10 000 points lumineux à travers Kinshasa. Et le transport était également renforcé parce que le Zaïre avait commandé de l'Allemagne tous les bus luxueux qui devaient transporter les invités. La télévision avait également eu des équipements pimpants neufs et je vous dis qu'il n'y avait aucune assistance étrangère. Tout était fait par les enfants du Zaïre.
Et c'était quoi les coûts sur le plan financier?
Mais il faut aller dans les 10 millions de dollars. D'abord, la bourse était telle que qu'on l'avait donnée à Ali et Foreman avec 5 millions. L'organisation n'est pas rentrée dans les frais.
Quel est l'impact de ce combat Ali Foreman au niveau national et mondial?
L'impact est énorme. Pourquoi pense-t-on 50 ans après, alors que nous-mêmes, nous n'en étions pas conscients? Et c'était l'un des événements du siècle consacré par le monde entier. Et parce que ce combat avait fait connaître le Zaïre en ces temps-là, à travers le monde, étant donné qu'après la rebaptisation du pays, très peu de gens savaient situer le nom Zaïre sur la carte du monde. Et en plus de cela, sur le plan culturel, la couture appelée dans le passé à bas cost et le boubou était importée aux États-Unis et même les mets africains de Kinshasa étaient consommés aux États-Unis. Sur le plan sportif, il y a eu des boxeurs qui se sont inspirés de ces combats pour faire des exploits inédits à travers le monde. On n'a qu'à se souvenir de champion du monde appelé Soumbou Kalambay Ali.
Comment la République démocratique du Congo peut-elle capitaliser les acquis de ce combat du siècle Ali Foreman?
Ce qu'il faut faire, c'est d'abord regretter ce que nous n'avons pas. Nous n'avons pas de sens du devoir. nous n'avons pas de sens de mémoire. Il faut participer à la mémorisation de tout ce qui fait entrer le Congo dans l'histoire du monde et qui doit partir de génération en génération, immortalisé. Mais qu'a-t-on fait de ces combats jusqu'à présent? Ce sont des faits qui constituent la consolidation de l'histoire du monde, la mémoire, les mémoriaux de notre pays. Et il faut y penser. Je pense également à l'antre qui avait servi à ce stade. Qu'est-ce qu'on en a fait par rapport à ces combats? Aujourd'hui, il faut penser à en faire un lieu touristique de niveau mondial.
Pierre-Célestin Kabala Mwanambui, je vous dis merci.
C'est moi et merci à Radio Okapi.
Voilà, c'était le journaliste Pierre-Célestin Kabala Mwanambui, un expert dans le monde du sport. Et puis, c'est la fin de ce journal, mais je vous rappelle quand même qu'un hélicoptère a connu un crash cet avant-midi à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa, du côté réservé aux militaires. D'après des témoignages, l'accident serait survenu au cours des manœuvres dans l'enceinte de cet aéroport. Nous y reviendrons avec des détails dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est totalement fini pour ce journal. Merci à Martin Sebou-Jangwe, à Blaise Shindani et à Debs Vita.